voir un thème très très important. Et le pasteur Abednego va venir me rejoindre parce qu'on va travailler ensemble. Et vous allez pouvoir aussi, tu peux monter si tu veux sur l'estrade, pouvoir poser des questions sur ce thème, sur la vie après la mort. On va aborder l'immortalité de l'âme, l'enfer, et on termine bien sûr sur la bonne chose, sur le paradis et le ciel, parce qu'il vaut mieux terminer par le ciel. On peut commencer par l'enfer et dépouiller l'enfer pour aller vers le ciel. Vous êtes d'accord avec ça? On peut commencer à glisser vers l'enfer, mais notre Seigneur est celui qui nous fait changer de voie. Et tant qu'on est vivant, il y a toujours possibilité. Amen. Tant qu'on a souffle de vie, toujours la possibilité d'accepter le salut qui est en Jésus-Christ. C'est la place au pasteur Abednego qui va parler d'un thème. Je lui ai laissé la mauvaise partie, je lui ai demandé s'il voulait traiter l'enfer. Alors, il a accepté de traiter l'enfer. Il fallait bien que de toute façon, à nous, s'il m'avait dit non, je l'aurais fait avec plaisir. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je l'aurais fait parce que la Bible en parle. Mais là, je vais vous parler quelques instants en introduction sur l'immortalité de l'âme. On va tout de suite la troisième slide, parce que la deuxième n'est pas bonne, la troisième, voilà. Avant d'en parler du ciel, de l'enfer, il faut parler un petit peu de l'âme et de l'esprit. Il faut savoir que Dieu nous a créé un être entier. Il nous a créé corps, âme et esprit. Et la différence qu'il y a avec les animaux, on pourrait tout de suite le dire, c'est que nous avons un esprit. Vous savez que les animaux ont une âme, un souffle de vie. Mais l'être humain a quelque chose de différent des animaux, c'est qu'il a un esprit avec lequel il peut rentrer en communion avec Dieu. Et nous avons aussi un corps. Et Dieu a décidé de sauver notre corps, notre être, pardon, tout entier, corps, âme et esprit. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Lorsque l'homme est dans le jardin d'Éden, il n'a jamais été question pour Dieu, en créant Adam et Ève, qu'il meure un jour. Mais vous savez qu'il est arrivé entre-temps le péché, la désobéissance. Et la mort, la Bible dit, s'est étendue à tous les hommes à partir de la chute d'Adam et Ève. La mort physique, donc, est universelle à cause de la chute d'Adam et de chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement Adam qui a péché, mais la nature pécheresse d'Adam qui est poussée à désobéir, à être liée par le péché, qu'il soit flagrant, qu'il soit caché. C'est la nature que nous avons héritée. Nous avons besoin, bien sûr, d'être délivrés de cela. Nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, car même notre corps connaîtra la résurrection, soit pour le jugement, soit pour la félicité. Il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que nous avons été créés pour toujours. Nous n'existons pas depuis toujours. Nous avons connu un moment de création, mais la création que nous sommes a été faite pour toujours. Et la Bible dit, dans un des textes de l'Ancien Testament, que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. D'ailleurs, les hommes vivent sur terre comme s'ils allaient être éternels. Les hommes n'ont pas envie de mourir. Je ne connais personne qui a vraiment envie de mourir, sauf vraiment quand on a une dépression, quand on proie à plein de choses. Mais en général, l'être humain n'a pas envie de mourir. Il a envie de vivre. Parce qu'il se dit tout, on ne va pas quand même finir dans un trou comme ça. J'ai envie encore d'avoir des sentiments. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent, qui croient que tout va se finir dans un trou, mais jusqu'à la fin de leur vie, ils espèrent encore être amoureux, ils espèrent encore vivre des sensations. Et penser que tout se finit, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait dans notre cœur. Enfin, moi, je pense que si on est vrai, on a quand même la pensée de vivre éternellement. Continue. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et le mot poussière pourrait être traduit par le mot terre. Adam signifie Adama, qui signifie terre rouge. C'est de là que nous avons été formés. Amen. Nous serons ensuite appelés à rencontrer notre Créateur et à être jugés. Alors, vous savez, là, je vais marquer jugé dans le cas où vous ne connaissez pas Jésus, car la Bible affirme, et c'est Jésus qui affirme, que quand on est disciple de Jésus, quand on a fait la paix avec Dieu par Jésus, on n'a plus besoin de venir en jugement. C'est-à-dire que le jugement de notre condamnation, de nos péchés, a été pris par Jésus et c'est réglé. C'est pour ça que Jésus a dit « tout est accompli ». Par contre, si je n'ai pas, eu cet avocat pendant ma vie terrestre qui a plaidé coupable, mais en même temps a donné sa vie pour que je puisse être sauvé, alors il va falloir que je rende des comptes. Mais celui qui est en Christ est déjà sauvé, puisque la Bible dit que même nous a ressuscités ensemble, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous vous rendez compte? Amen. Et bien sûr, là, on n'a pas le temps de voir tous ces détails, parce que le temps nous est court, mais vous savez aussi que les chrétiens vont passer devant le tribunal de Christ, qui est le tribunal des récompenses, non plus des jugements, mais des récompenses. La vie terrestre est donc un temps de patience de la part de Dieu et la possibilité de choisir ou de refuser le salut qui vient de Dieu. La vie terrestre, c'est là où tout va se décider. C'est là où Dieu use de patience. Dieu aurait pu détruire le monde. Il aurait pu dire, bon, c'est fini, c'est loupé, mais Dieu use de patience. Même lorsque certaines personnes pêchent, sont rebelles, Dieu use de patience quand même. Pourquoi ? Parce qu'il tend la main, parce qu'il sait que l'homme peut changer de voie et peut se tourner vers son Créateur et vers son Sauveur. Amen. Donc c'est un temps de patience dans lequel et de bonté dans lequel nous vivons actuellement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit Amos chapitre 4, verset 12. Et Hébreux nous dit ceci, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Peut-être avez-vous une question juste par rapport à ça. Il y a des gens qui, quand ils meurent, disent « j'ai vécu quelque chose, je suis mort, je suis rentré dans un tunnel. » Vous avez souvent remarqué, vous avez entendu ces... les gens ne sont pas allés dans le séjour des morts, mais ils ont connu parfois le tunnel, une espèce de tunnel blanc, lumineux, donc j'exprime toujours à peu près la même chose, mais il n'est réservé aux hommes que mourir une seule fois. Mais par contre, parfois, il y arrive la résurrection, car même quand on est aujourd'hui dans certains endroits où Christ est annoncé, et on voit aussi dans l'Évangile que les morts peuvent ressusciter. Lazare, qui était mort depuis 4 jours, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Mais d'une manière générale, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en abattrai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Vous savez que lorsqu'on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, c'est un cadeau de Dieu. Personne ne décide du jour de sa naissance. Personne ne décide si son cœur doit battre battement à la minute. Personne ne décide que son cerveau grandisse, que l'on soit capable d'avoir une moelle épinière, de faire tout ce qu'on a. On n'a finalement pas beaucoup de pouvoir sur ces choses-là. On grandit, on naît, on n'a pas le pouvoir de naître en France. Moi, je suis né en France, mais j'y suis pour rien. Vous êtes pour quelque chose, vous ? Je ne suis pas pour grand-chose. Je vis, je respire. Et lorsque je suis sorti du ventre de ma mère, une des choses incroyables que mon corps a fait automatiquement, c'est qu'il s'est mis, les poumons se sont mis à se gonfler. Et là, j'ai eu besoin de respirer pour continuer à vivre. Et ça s'est fait automatiquement. Et là, pour ce qui est de notre vie, le jour de notre mort, nous n'avons pas de pouvoir non plus. C'est Dieu qui décide le jour où nous allons partir. Mais nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Et je bénis Dieu qu'aujourd'hui, pour me concernant personnellement, je vais rencontrer Dieu alors que je suis en paix avec lui. Amen. Je vais rencontrer mon Créateur, non pas parce que je suis meilleur que vous, mais parce que j'ai accepté Christ comme sauveur et comme avocat, comme défenseur et comme rédempteur. Amen. Un peu plus loin. Dieu nous donne la possibilité donc de préparer notre éternité, son éternité. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose auquel nous tenons et qui fait que Dieu vous donne la possibilité de choisir où allez-vous passer l'éternité. Soit avec lui, soit loin de lui. Vous avez remarqué que Dieu est un gentleman, excusez-moi l'expression, ça vous va ? C'est-à-dire qu'il ne force personne, mais il nous attire à lui par des cordages d'amour. Il y a des gens, quand je leur parle du Seigneur, ils disent « moi, je n'en veux pas ». Et si je leur dis « mais tu sais, tu vas être pendant toute l'éternité éloigné de Dieu et c'est sûrement ça l'enfer, c'est là où Dieu n'est pas », ils me disent droit dans leur botte « oui, mais il n'y a pas de souci, c'est ce que je veux ». Ok, mais Dieu respectera et je dois respecter ce choix, même si pour moi je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de te convaincre de changer de voie. Et vous avez remarqué que Dieu dit « je veux que tu choisis la vie ». Dieu n'a pas dit « écoute, si tu veux mourir, vas-y ». Dieu dit « si tu veux pas que je sois là, je ne serai pas là, mais je t'en prie, choisis la vie ». Même Paul à un moment, il dit « nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Et Dieu a envoyé son propre fils mourir sur la croix pour que nous puissions changer. Et si le diable nous a embarqués avec lui, le diable est déjà jugé de la Bible, mais nous pouvons nous dégager des griffes de l'adversaire. Vous savez que mon frère était pompier de Paris, et il était à Porte de Champéret, à la caserne de Champéret. Il me disait, il m'avait expliqué ça il y a quelques années, des fois, il était amené à gérer des gens qui voulaient se suicider. Et il me disait, une des choses qu'il fallait faire, c'est faire attention, parce que des fois, le suicidé n'a pas le courage de jeter en bas, mais s'il t'attrape, il peut avoir le courage de t'amener avec lui et de tomber. Alors il fallait faire attention que le gars ne vous attrape pas pour vous amener avec lui dans sa chute. Le diable peut vous attraper, mais Dieu a prévu le moyen de vous dégager des pièges de l'adversaire pour avoir la vie éternelle. Amen. Il y aura donc une résurrection en deux étapes, une pour les justes, et une pour les injustes. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Est-ce que c'est la dernière ? Voilà. Et suite à ça, je vais laisser la place à Benego qui va vous parler du mauvais chemin. Mais il est important que vous sachiez aussi ce que c'est que le mauvais chemin. À toi, Ben.
Bonjour à tous. Ce choix m'a été imposé, donc du coup, je rigole. Non, je plaisante. Donc, il y a quelque chose de fou. Aussi longtemps que je me souvienne, hein, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis converti et il me semble que je n'ai jamais entendu de toute ma vie finalement un message qui parle de l'enfer. J'ai entendu des prédications où l'enfer est évoqué, il y a des chants où l'enfer est aussi évoqué, mais je n'ai jamais entendu de prédication consacrée ou bien sur ce thème de l'enfer. Donc du coup, je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi on ne parle pas de l'enfer ? Pourquoi c'est comme si c'était une réalité qui n'existe, quelque chose qui n'existait pas ? On ne parle pas de l'enfer. Tandis que le message de réconciliation avec Dieu, le message de l'évangile, pour que les pécheurs soient sauvés, si on parle de salut, si on parle de sauver, ça veut dire qu'on doit être sauvé de quelque chose. Et donc du coup, sauvé de quoi ? Sauvé de l'enfer, sauvé de la punition éternelle. Dans la Bible, il y a plusieurs termes qui parlent de l'enfer. Donc, on en a vu un tout à l'heure. C'est le terme de séjour des morts. Il y a aussi le terme hébreu qui est le terme Sheol. Le terme grec qui aussi peut parler aussi d'enfer, mais des fois d'autres choses, mais souvent d'enfer, c'est le terme de Hadès. Pour ceux qui connaissent ce valet du Zodiac, ça vous dit quelque chose ? Hadès, ok ? Et le dernier terme, c'est souvent le terme de géhenne ou d'étendu ou d'étang de feu. Et l'enfer, c'est un sujet qui est souvent ignoré. On ne parle pas de l'enfer, on évite d'en parler. Mais cependant, si on parle de salut, il nous faut aussi donc parler d'enfer. 75% des personnes, surtout en Occident, des personnes qui sont judéo-chrétiens, en fait, dans leur histoire, telles que la France ou d'autres pays d'Europe, 75% de ces personnes sont conscients ou bien connaissent l'existence de l'enfer ou bien en tout cas ont déjà entendu parler. Cependant, très peu de personnes sont conscientes d'aller en enfer. D'ailleurs, c'est presque une injure de dire à quelqu'un, mon ami, tu vas en enfer. Cependant, dans notre monde, la plupart des péchés sont quasiment acceptés. Lorsqu'on parle dans le monde, la plupart des péchés sont quasiment acceptés, excepté par exemple le péché de pédophilie. Celui-là, forcément, tout le monde le repousse, tout le monde dit que ça, c'est un péché, tout le monde pointe du doigt que c'est un péché. Peut-être le meurtre aussi. Mais par contre, quand il s'agit de tromper, quand il s'agit de mentir, quand il s'agit de forniquer, tant qu'il s'agit de faire d'autres péchés, en général, le monde ne condamne pas ces péchés. Au contraire, en général, on voit que le monde encourage peut-être même ce type de péché. Donc du coup, étant donné qu'on est dans un monde qui a l'habitude en fait de vivre avec le péché, d'avoir le péché en son sein et de ne pas le dénoncer, forcément parler d'enfer devient quelque chose de compliqué ou d'incompréhensible dans le monde dans lequel on vit. Parler d'enfer, de condamnation, de jugement, ce sont des choses qu'on a du mal à dire parce que tout simplement le monde ignore que ce qu'ils font c'est le mal et que ce qu'ils font c'est le péché et que le péché conduit à l'enfer. C'est vrai aussi même dans nos milieux chrétiens, on parle souvent de l'amour de Dieu. Et on parle que Dieu est tellement amour qu'on a du mal à s'imaginer ou du mal à accepter le fait qu'un Dieu qui est tellement amour puisse avoir pu créer l'enfer. L'enseignement sur la gravité du péché, sur les conséquences du péché, c'est un enseignement qui est rare, même dans nos églises. Enseigner les enfants, justement, qu'ils font des bêtises, mais leur enseigner que s'ils pêchent, il y a une conséquence par rapport à leur péché, c'est aussi quelque chose que beaucoup de parents ne font pas. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on parle de salut, si on parle d'être sauvé, on doit être capable de dire de quoi les gens doivent être sauvés. L'enfer, ce n'est pas quelque chose que l'on découvre seulement dans le Nouveau Testament, dans la Bible. C'est quelque chose qui existe déjà dans l'Ancien Testament, dans les cinq premiers livres de la Bible. Donc, dans la Pentateuque, en Deutéronome 32, 22. Donc, je lis pour vous Deutéronome 32, 22. Il est dit « Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. » Il faut voir aussi que dans la première prédication de Jésus, lorsque Jésus est sur terre, dans sa toute première prédication, en Matthieu chapitre 5, au verset 22, il est dit « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Encore dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus dira « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » En Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 23, il est encore question des enfants de la géhenne. Donc la Bible parle vraiment pleinement, entièrement de la réalité de l'enfer et qu'il y a effectivement un choix à faire. Celui qui fait finalement le mauvais choix va en enfer. Jésus n'est pas venu pour nous sauver de l'angoisse. Jésus n'est pas venu pour nous sauver de l'anxiété. Il n'est pas venu pour nous sauver des petits problèmes que nous avons. Il est venu pour nous sauver parce qu'étant pécheurs, nous sommes sous la colère de Dieu. Et finalement, il est venu pour nous sauver afin que nous puissions échapper à cette colère, afin que nous puissions échapper à cette réalité qu'est l'enfer. Dans le texte de Luc chapitre 16, et c'est là, c'est vraiment un des textes qui nous parle justement de la différence entre le paradis et l'enfer. C'est le texte de l'homme riche et de Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche, le sein d'Abraham, c'est un autre terme pour parler du paradis, mais je pense que Bertrand reviendra là-dessus tout à l'heure. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu, de tourment. » Donc cette histoire nous décrit l'enfer, nous décrit le fait qu'effectivement une personne qui est en enfer ne peut plus aller au paradis. Il nous décrit aussi que c'est pendant notre vie qu'il nous faut faire ce choix, parce qu'à partir du moment où on est mort, c'est trop tard. Le choix est déjà fait et on ne peut pas passer de l'enfer au paradis. Ça aussi, c'est pour répondre à cette question des personnes qui prient malheureusement encore pour les morts. À partir du moment où une personne elle est morte, eh ben, elle a déjà fait son choix. C'est trop tard. Y a pas, et on ne peut pas prier pour qu'une personne passe d'un lieu à un autre. Il y a en fait trois grandes choses qui sont contre cette réalité de l'enfer. La première des choses, c'est l'annihilation. L'annihilation, c'est en fait le contraire de ce que vient de dire Bertrand. Parce que Bertrand parle de l'éternité de l'âme. L'annihilation, c'est de dire qu'en fait, après la mort, il n'y a plus rien. C'est que tout est détruit, on est mort et c'est terminé. Et toutes les personnes qui, justement, croient en l'annihilation ne croient pas à l'enfer ni au paradis parce que pour ces personnes-là, eh ben, c'est terminé. Bertrand a répondu à cette question tout à l'heure. L'âme est éternelle. Donc, quelque part, il n'y a pas d'annihilation. J'ai toujours habitude de dire que finalement, qu'on soit chrétien ou pas, et c'est une boutade bien sûr, c'est pour pouvoir susciter la question, qu'on soit chrétien ou pas, on a tous la vie éternelle finalement. Mais soit on a la vie éternelle dans le paradis ou la vie éternelle en enfer. La seconde des choses après l'aliénation, c'est l'universalisme. L'universalisme, on connaît tous ça, c'est qu'on ira tous au paradis. Que finalement, ben, l'enfer, c'est réservé à Satan et ses démons. Mais que tout être humain ira au paradis. Parce que tout simplement, on ne peut pas croire qu'un Dieu plein d'amour puisse envoyer des gens en enfer. On pense que l'enfer est réservé à celui qui a été rebelle contre Dieu et les démons aussi qui sont rebelles contre Dieu. Et donc du coup, pour ces personnes-là, ils pensent que tout le monde va au paradis. Cependant, ce que Jésus dit, c'est que finalement, ceux qui n'ont pas accepté Christ ont pour père le diable. Il dira ça aux pharisiens, mais ça revient à dire ça à tout le monde. Toutes les personnes qui n'ont pas accepté Christ ont pour père le diable et finalement sont aussi considérées comme étant rebelles à la parole de Dieu, rebelles à Dieu et donc finiront exactement comme le diable et ses démons et finiront en enfer. Donc effectivement, on doit tout de suite refuter toute idée d'universalisme. Et ensuite, la dernière des choses, c'est l'inclusivisme, c'est de dire que finalement seront sauvés les chrétiens. Et par faiblesse, souvent, on a tendance à dire ça, qu'il n'y a pas que les chrétiens qui vont être sauvés, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance d'entendre de la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui sont dans des mondes, dans des endroits reculés, ces personnes qu'on n'a pas pu évangéliser. Donc du coup, peut-être par faiblesse aussi, on se dit ils seront aussi eux-mêmes inclus dans le salut et ces personnes-là seront sauvées aussi. Or, malheureusement, la parole est aussi claire que finalement, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné pour être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Que finalement, Jésus-Christ, c'est la porte, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et que celui qui n'a pas Christ, malheureusement, est aussi perdu. Donc du coup, l'enfer, c'est le séjour des morts. Lorsqu'effectivement, on meurt, étant donné que Christ n'est pas encore revenu. Toutes les personnes qui sont mortes aujourd'hui sont dans deux endroits différents. Certains sont effectivement dans le sein d'Abraham, dans une espèce de repos en attente du retour de Jésus-Christ. Et d'autres sont dans le séjour des morts, dans le Sheol ou dans le Hadès, où effectivement, ils ne sont pas dans ce repos. Ils attendent aussi leur jugement, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'uniquement les morts en Christ qui seront ressuscités. Mais ceux qui ne sont pas en Christ le seront aussi. Et du coup, ils seront jugés après à ce moment-là. Mais cependant, en attendant le retour de Christ, les personnes qui sont mortes et qui ne sont pas dans le sein d'Abraham sont dans le Sheol, dans l'Hadès. Et on va continuer. Essayez d'aller plus vite. Donc du coup, en fait, voilà, c'est que plusieurs textes nous parlent de l'enfer et je vais vous en lire quelques-uns pour pouvoir justement avoir un peu le vocabulaire biblique sur ce qui est l'enfer. Par exemple, Ecclésias 9, 10 dit que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. L'enfer, c'est donc un endroit d'ennui, un endroit où il n'y a rien à faire, un endroit où il n'y a pas d'activité ni physique ni intellectuelle. C'est en fait le néant pour toujours. Job dit que avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Donc du coup, effectivement, Job parle de l'enfer comme étant un endroit où on est éternellement dans les ténèbres. Dans Matthieu aussi, il est question d'un endroit où il y a des douleurs et des souffrances éternelles. Et donc les pécheurs vont en enfer à cause de leur choix de ne pas se repentir. Tous les péchés, en fait, tous les péchés créent un chemin vers l'enfer. Et tous les chemins du péché s'arrêtent en enfer. Il y a plusieurs chemins qui mènent à l'enfer, mais finalement, il n'y a qu'une seule manière d'échapper à l'enfer. Il n'y a qu'un seul chemin pour échapper à l'enfer. Et ça, c'est Jean 3, verset 16 qui nous le dit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est 1 Thessaloniciens 1:10 aussi qui nous dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus nous délivre de la colère à venir. » On ne peut pas finalement donc refuter l'enfer, on ne peut pas se dire que l'enfer n'existe pas. La Bible est très claire là-dessus, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de l'existence de l'enfer. De toute façon, on ne peut pas parler de prédication de l'évangile ni de prédication de salut si on ne parle pas de l'enfer. Forcément, cela va avec. L'enfer existe bel et bien. Les pécheurs, ceux qui ne sont pas réconciliés avec Christ, sont aussi considérés comme déjà en enfer. Et donc, du coup, on ne peut pas éviter donc, ce sujet. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire sur l'enfer.